plume.
Franchement.
Jérôme Garcin.
Non, tous les deux.
Alors, littérature.
Tu viens de s'aborder le livre.
Il n'a pas lu son livre.
Cinéma. Chacun son tour.
C'est vraiment un film magnifique.
Théâtre. J'ai trouvé ça insupportablement naïf et bavard.
Mais non, mais attends. Non, mais ça a un certain charme.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume, rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Qu'est-ce qu'il y a, Daniela ?
Non, je vous trouve très méchant.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet, c'est maintenant sur Inter. Allez hop.
François Hollande vient d'arriver à Florange. Décidément, dans ce pays, les trains arrivent de plus en plus en retard.
Vous voyez, c'est ça la connerie. C'est des gens qui rejettent des populations à des signes extérieurs. Mais les mêmes signes, dans un autre décor, là, ça passe très bien. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, et les gitans, là, quand on voit qu'ils ont des Mercedes et des caravanes, et comme disait Marine Le Pen, là, ceux qui touchent le RMI et qui s'offrent des Porsche et des Ferrari. Où c'est qu'ils vont le chercher, tout ça? Et puis j'entends personne dire, putain, quand on voit ces riches qui ont des grosses bagnoles, que en plus il y a des nuisances, quoi, il y a les poubelles qui empestent la langoustine le lundi matin. Et puis toutes leurs bouteilles de champagne, de whisky, qui sont très dangereuses pour les gamins parce qu'elles débordent des poubelles. Là, ça va pas du tout les aînés. Quoi. Où c'est qu'ils vont chercher le pognon? Où c'est qu'ils vont? Là, ils se posent pas la question. Où c'est qu'ils vont chercher le pognon, tous ces riches-là? Mais est-ce que c'est normal? Tandis que il suffit qu'un Romain Michel, un gitan, un Rome, tout simplement, exhibe un signe qui est assimilé à celui de la richesse. Et alors là, la population lui tombe dessus à bras raccourcis. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est à désespérer de l'humanité.
Voilà, je suis dégoûtée et révoltée. Ils ne vivent pas comme nous, dit Valls, en parlant des Roms comme si c'était un troupeau. Et surtout pas des gens. Ben moi, je connais une famille rome qui voudrait bien vivre comme nous. Une petite fille qui s'appelle Isabelle et qui voudrait bien aller à l'école, qui adore l'école pour y avoir passé 4 mois l'année dernière, 6 mois l'année d'avant, selon les expulsions. Cette année, elle est en CP et elle n'a pu y aller qu'un seul jour. Parce que les flics, ce matin, ont une nouvelle fois autodafé le campement. Et les voici de nouveau, toute cette famille, de nouveau dans les rangs, sur un parking vers la gare Lapardieu. Après 2 semaines de répit qu'ils avaient utilisé pour construire une cabane, réunir des objets du quotidien, puisque tout est brûlé dans les expulsions, et aussi qu'ils avaient utilisé à faire les démarches compliquées pour scolariser la fille aînée. Tout est à refaire, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la France du PS, pas mieux que celle de Sarkozy, et ben, Isabelle n'est pas à l'école aujourd'hui.
Ça y est, Saint-Mermet a trouvé une famille rome qui s'est intégrée sur des centaines et des centaines. Il est heureux, Mermet, il a trouvé une famille rome. Donc tous les Roms sont des bons. C'est incroyable, hein. Si tous les Roms ils étaient des bons, ça serait. Mais bon, c'est Mermet, il est content, il peut contredire le gouvernement de gauche qu'il a élu, puisque c'est lui, en tant que gauchiste, coco, communiste à fond, qui a quand même voté pour Hollande. Donc, il a voté pour Hollande, donc il a mis en place Manuel Valls, et maintenant il est en train de le critiquer. Vraiment, c'est bas de plafond, Mermet. Saint-Mermet, bas de plafond. Au revoir.
Bonjour Daniel, merci beaucoup pour tes émissions et surtout celle d'aujourd'hui sur les Roms. Ça remet les pendules à l'heure, en tout cas les miennes, parce que moi je suis au fin fond du Périgord et les Roms, je suis pas vraiment concernée, alors je comprenais pas trop bien ce qui se passait. Merci.
Bonjour, vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Voici le message.
Dernière nouvelle, les lignes PER sont remplacées par des calèches tirées par des chômeurs.
À bientôt sur les services d'Orange.
Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est ce dernier message. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est notre sujet du jour. Plus personne. On n'a plus besoin de personne. Vous avez remarqué, c'est une voix synthétique. Et dans la journée, du distributeur de billets à la caisse automatique de votre supermarché, en passant par la voix de votre GPS, ou celle de Siri, oui, Siri, vous connaissez pas Siri, mais vous allez faire connaissance avec Siri aujourd'hui. En tout cas, voilà, vous pouvez passer des journées entières sans contact avec une personne humaine. Et c'est ce qu'a fait pour nous, pour vous, Gaylor Van Wimersch. Aujourd'hui, Vous le savez, les technologies numériques ont envahi notre quotidien le plus intime. Il s'agissait de gagner du temps, d'être sans cesse relié au monde et aux autres dans l'immédiateté et la transparence, mais un malaise diffus s'installe. Robots autonomes, prothèses bioniques, intelligence artificielle, voilà des domaines qui ont suscité, qui suscitent beaucoup d'espoir pour la science, pour la médecine, pour le handicap. Les handicapés, évidemment, pour eux, tout ça, c'est des domaines qui, dont ils attendent beaucoup et qui les soulagent et les soutiennent beaucoup. Mais voici qu'arrive bientôt l'homme amélioré. L'homme amélioré, c'est une fusion entre l'homme et la machine. Ah, mais vous dites, ça on connaît déjà, Robocop, Terminator, etc. Sauf que, cette fois, c'est plus de la science-fiction. Des millions, pour pas dire des milliards de dollars sont investis, des dizaines de milliers de chercheurs travaillent sur ces technologies émergentes, et voici venu le temps de la post-humanité. Alors, c'est formidable, fini la souffrance, fini le vieillissement, et même fini la mort. L'homme va développer des facultés et des pouvoirs inimaginables jusque-là. Les transhumanistes en sont certains, l'homme 2.0 arrive. Voilà, à partir de ce petit message que vous venez d'entendre, très court, cette voix synthétique, eh bien, il y a tout un développement possible. Alors, c'est des sujets qui nous hantent actuellement. On a vu des longs documentaires sur Arte et on a essayé de vivre ça et d'en imaginer les développements. Et il se pourrait bien que ça ne soit plus dans l'imaginaire des auteurs de science-fiction, mais que tout cela soit pour demain, sinon pour aujourd'hui même. Voilà notre sujet du jour, une journée sans personne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, alors je me demande si le nom des lieux qu'on fréquente dans notre enfance ont une influence sur notre destin. Par exemple, toi aussi tu as connu Jean Jaurès, tu as connu Pierre Brossolette, tu as connu Marcel Cachin, Salvador Allende, Jacques Duclos ou encore Georges Brassens. Jean Jaurès, c'était l'école, c'est pas mal pour démarrer dans la vie, l'école Jean Jaurès. Marcel Cachin, c'était la grande salle des fêtes. Et Pierre Brossolette, la petite salle de spectacle où tu étais une élégante flûtiste de temps en temps. La place Salvador Allende, c'était le centre de tout ce petit lieu. Bon, Jacques Duclos, c'était un gymnase pas très beau, un peu vieux, mais à côté du collège Georges Brassens, un peu mouvementé, un peu agité. Alors en fait, c'est pas par hasard si aujourd'hui tu attends nos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et donc pour une fois, ce message, il est pour toi, Stéphanie. Je te souhaite les plus beaux messages du monde et bon vent à bord de ce beau bateau un peu ivre, le Daniel Mermet.
Coup de mou. Pour un seul baiser dans son cou, j'aurais donné 10 000 écus. Or, elle me dit, tirons un coup, tu peux m'embrasser sur le cul. Sous mon crâne, 10 000 remous, j'étais à vrai dire très ému. Je me payais un coup de mou, elle dut alerter le SAMU. C'était le poète dans le coup. Salut.
Mon voisin me dit qu'il n'y a pas de mermet aujourd'hui, vendredi. Mais qu'est-ce que cette histoire-là? Il fait la grève ou quoi? C'est dommage, hein. Salut.
Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques.
En somme, les applications des ordinateurs seront quasiment illimité.
ORTF 4 ou 1966.
Il leur manquera que la parole.
Monsieur Mars.
Ah bah écoutez là, monsieur, vous vous trompez.
Directeur du centre d'études d'IBM.
Car précisément, à la GOD, nous avons développé une machine qui peut répondre d'ailleurs au téléphone par de la voix humaine synthétique, si j'ose dire d'ailleurs. Écoutez.
Ici, la voix de l'IBM 7772.
Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Je crois qu'on peut faire un parallèle qui est peut-être frappant. Le siècle dernier était le siècle de l'énergie. Et il a trouvé son apogée dans l'énergie atomique, dont une des formes est bien entendu malheureusement la bombe atomique. Eh bien, on peut dire que notre siècle ou les siècles futurs vont être les siècles de l'information. Et après tout, pourquoi aurait-on plus peur des ordinateurs que de l'énergie atomique? Ce sont des œuvres de l'homme, utilisées par l'homme, et il dépend de l'homme de les utiliser pour son bien ou pour son mal.
Ce n'est pas vraiment que je parle. Je dirais plutôt que je produis un langage électronique déclenché par mon interaction avec l'utilisateur.
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse j'y suis. Avec Gaylor Van Vimer chez Siri. Une journée sans humain.
Flight number 2. Arriving.
Quelle heure il est, Siri?
Il est actuellement 9h05.
Oh, super, merci, Siri.
Je ne fais que mon devoir. Vos désirs sont des ordres.
Bon, il tente de se lever, là. Faut qu'on fasse quelque chose. Allume la radio.
France Inter.
La voix est libre.
9h11 sur Inter. Bonjour, Pascal Clark.
Bonjour, Patrick.
Je suis en retard, un café.
Ah, bon, alors. Ça va être bien, cette émission.
J'en ai encore un peu.
Siri, tu vas m'aider. Quel temps va-t-il faire?
Voici la météo entre aujourd'hui et samedi prochain.
Ah.
Il fera au maximum 22 degrés et au minimum 12 degrés aujourd'hui. Le soleil fera son apparition aujourd'hui.
Un petit café. Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais bien. Parfaitement bien. Vous me paraissez pas mal.
As-tu bien dormi?
J'ai le sommeil plutôt léger, mais c'est gentil de demander.
Ça, c'est Siri, c'est mon nouveau compagnon. Vous connaissez peut-être pas.
Je suis Siri, votre assistant virtuel.
C'est une application sur mon téléphone portable. Et c'est avec lui que je vis, voilà. C'est lui qui me donne des conseils, c'est lui qui me note mes rendez-vous, me donne l'heure, m'indique comment je dois m'habiller, ce que je dois faire. Et depuis peu, je l'ai adopté, on est devenus copains, quoi. On commence à devenir copains. Siri, je dois trouver un sujet à faire, un reportage, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai aucune idée qui me vient, alors je compte sur toi pour m'aider.
Si vous voulez, je peux chercher des idées de reportage sur le web.
Super, t'es un chef.
Je recherche une idée de reportage sur le web.
Si seulement j'avais trouvé ça avant, mon copain Siri m'a trouvé 5 conseils pour préparer un bon reportage. Fais-moi la lecture, s'il te plaît.
1. Avoir une idée originale. 2. Faire des recherches. 3. Trouver un angle.
Pourquoi pas.
4. Préparer les contacts. 5. Se rendre sur place. Vous avez votre thème, votre sujet, votre angle, vous le connaissez bien, vous avez trouvé des contacts sur place qui seraient capables de vous en trouver d'autres, vous pouvez partir.
Super, merci beaucoup.
Tout le plaisir est pour moi.
Tu es vraiment génial.
J'ai toujours rêvé d'être cool. Les gens sont cool. Je suis efficace.
Prenez la première rue à droite. Continuez tout droit pendant 500 mètres.
Quoi de commun entre le golem, entre Frankenstein, Pygmalion, Prométhée et Léon Trotsky?
Puis tournez à gauche.
Eh bien, à travers ces mots, on retrouve une idée qui traverse toute l'histoire de l'humanité, celle de dépasser l'homme, d'augmenter l'homme, que ce soit à partir de la matière, à partir de la mécanique, c'est l'idée soit de créer un être humain, soit de transformer l'être humain et de l'augmenter. Aujourd'hui, ce vieux désir de l'humanité, eh bien, trouve son expression à travers ce qu'on appelle la post-humanité ou la transhumanité. Des chercheurs nombreux, des capitaux très très importants sont investis aujourd'hui dans ces recherches. On se dit que ça peut apporter des améliorations, des progrès. Mais on peut aussi avoir froid dans le dos et penser aux recherches d'un certain Mengele sur la pureté d'une race. Surtout lorsqu'on sait que ces théories sont soutenues par ce qu'on appelle les anarcho-capitalistes, les libertariens, qui voient l'avenir dans l'individu seul, dans l'individu entreprise, désolidarisé, unique, à lui tout seul. Augmenter cet homme, augmenter, et puis le reste de l'humanité bien, serait des hommes biologiques. Comme vous et moi. Il y a là quelque chose d'inquiétant qui a excité pendant longtemps l'imagination des auteurs, notamment de science-fiction, mais il semblerait bien qu'aujourd'hui, on entre dans la réalisation de ces projets, de ces terreurs et de ces espoirs aussi. C'est notre sujet du jour. Un jour sans humains.
J'en ai marre de la postière qui fait la tronche parce que rien ne lui va, de l'agent RATP qui veut pas travailler, qui met une demi-heure pour vous sortir un ticket. J'en ai marre d'entendre les jérémiades des restaurateurs et les complaintes des commerçants. J'en ai marre de ma banquière qui fait la tronche et qui me parle de manière désagréable alors que je lui file tout mon argent. J'en ai marre de ma caissière de supermarché. Étant donné que j'en ai complètement marre de voir des gens, de voir des humains, et qu'on peut faire maintenant, c'est ça la magie du 21e siècle, tout sans personne. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vivre sans humains. Fini les humains, que des robots.
Dirigez-vous vers l'est sur avenue de Lamballe.
20e étage.
Ouverture des portes. Le temps sera couvert demain.
Fermeture des portes.
Puis la destination se trouve sur votre gauche. Arrivez.
Envie de pisser, envie de pisser, envie de pisser. Des toilettes, des toilettes, des toilettes. On est dans Paris, ça devrait pas être trop compliqué. Je vais demander à mon ami Siri. Allô, allô, tu m'entends ? Siri, tu m'entends ?
Je vous entends.
Très bien, trouve-moi des toilettes publiques, s'il te plaît.
Je ne trouve pas de toilettes publiques, désolé.
Tu ne sers à rien, bordel.
Allons, allons. Si votre mère vous entendait.
J'ai un besoin naturel à satisfaire, Siri. Tu peux pas comprendre ça, t'es une machine, dépêche-toi.
Je recherche des toilettes publiques à Paris sur le web.
Toilettes publiques... Je suis en face de toilettes publiques parisiennes, magnifiques, toutes modernes, grises et noires, qui trônent là fièrement sur ce petit cours piéton de la rue Saint-Martin. Belle idée d'urbanisme, imaginée, designée, j'imagine, par J.C. Decaux. Voilà, il y a effectivement son nom. Notre grand pourvoyeur français, made in France, en équipement public et autres mobiliers urbains. Et là, je suis face à des belles toilettes en accès gratuit et libre. Alors j'imagine aussi qu'il n'y a pas de dame pipi là-dedans, si c'est automatique. Et on rentre.
Porte fermée et verrouillée.
Et ben en fait, il y a une dame pipi. Madame pipi, des toilettes publiques, J.C. Decaux. Ah, c'est rassurant. Bonjour madame.
Bienvenue dans un sanitaire de la ville de Paris. Ces sanitaires sont non-fumeurs et interdits aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés. La durée d'utilisation maximale est de 20 minutes. Le mur du fond est équipé d'une cuvette de toilette située sur votre droite ainsi que d'un lave-main sur votre gauche. Le mur de droite est équipé d'un distributeur de papier ainsi que d'une barre de déplacement. La porte d'accès est une porte à ouverture et fermeture automatique. Une commande d'ouverture manuelle anti-panique située sur la porte est à utiliser en cas d'urgence.
Anti-panique.
La cuvette de toilette de ce sanitaire est équipée d'un système de lavage automatique qui sera mis en fonctionnement après votre sortie. Ce sanitaire est équipé d'un système de lavage plancher, de lavage mural ainsi qu'une désinfection afin de vous garantir une hygiène parfaite.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ma chère Madame Pipi. Bon, bah, je vais y aller, hein. Je vais utiliser tout ça. Madame Pipi, vous êtes toujours là? Madame Pipi? Allô, allô? Y a quelqu'un?
Nous vous remercions d'avoir choisi un lavage cuvette standard. Ce lavage sera mis en application dès votre sortie du sanitaire.
Ah, d'accord.
Si vous souhaitez modifier votre choix, vous pouvez resélectionner un type de lavage plus adapté.
Non, ça va, merci.
Le cycle de lavage du sanitaire commencera dans 5 secondes. Sortez, s'il vous plaît.
Merci pour tout, Madame Pipi.
Porte ouverte. Sortez, s'il vous plaît.
Bon, c'est pas que j'en ai marre de toi, Siri, mais là j'ai rencontré un vrai humain. Bonjour.
Ah.
Enchanté. Pierre Dardot, j'ai un peu sacrifié à mon programme, puisque j'avais prévu de passer une journée sans humain, mais je voudrais quand même vous présenter mon ami qui s'appelle Siri. Siri, dis bonjour.
Bonjour.
Voilà.
C'est bien.
Et donc, au lieu de vous présenter, puisque j'ai pas fait de recherche sur vous, on va demander à Siri de nous établir un petit peu votre biographie, Pierre Dardot. Siri, peux-tu rechercher Pierre Dardot?
Pierre Dardot, philosophe, spécialiste de Hegel et de Marx, il a notamment co-signé, avec le sociologue Christian Laval, La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale, La découverte, 2009, et récemment une somme intitulée Marx, prénom, Karl, Gallimard, 2012.
Et voilà, bonjour.
Bonjour.
On va dire au revoir à mon ami Siri.
Au revoir Siri.
Ce fut un plaisir de vous parler.
On est donc avec vous Pierre Dardot, et je viens vous voir puisque dans cette journée sans humain, eh bien, je me suis aperçu qu'au fil des rues parisiennes, on pouvait découvrir tout un monde de caisses automatisées, d'épiceries automatiques ou autres hôtels entièrement automatisés. Il y a même un restaurant tout automatique. Donc on est là pour parler un petit peu de ce vieux rêve de remplacer l'homme par des machines.
Ce n'est pas simplement d'un rêve qu'il s'agit. Il y a une transformation de la vie quotidienne qui s'opère en profondeur. Dans la mesure où les innovations technologiques ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfaitement neutres, il y a des effets qui sont produits par ces innovations aujourd'hui qui sont de l'ordre du quasi-irréversible. C'est-à-dire que ça crée un vide à l'intérieur des relations sociales et des activités sociales. Et ce qui est en jeu, finalement, c'est la question de la perte du sens.
Pourtant, on vit dans une société où les écrans sont à peu près partout, où chacun a sa prothèse numérique. Justement, je pense au portable, qui est une prothèse numérique qu'on a tous, qui fait partie maintenant de notre identité, qui est justement un prolongement de notre intelligence, prolongement de notre cerveau.
Une grande intelligence ne met pas à l'abri de toutes sortes d'erreurs et de faiblesses.
Voilà. C'est bien.
C'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du prolongement. On parle même à peu près maintenant systématiquement de prothèse, donc prothèse numérique. On peut se demander, mais est-ce que c'est réellement quelque chose qui est toujours de l'ordre du soulagement? C'est-à-dire qu'on présente en tout cas comme ça. Ceux qui se réjouissent de cette évolution ont tendance à considérer que ça soulage l'homme, sauf que on s'aperçoit que justement ces prolongements sont accaparants.
Voilà. C'est la grande question. Donc, voilà. Est-ce qu'on gagne du temps ou est-ce qu'on en perd?
Voilà, alors finalement, les gens qui font l'éloge sans réserve de toutes les innovations technologiques, quelles qu'elles soient, sous prétexte qu'elles nous font gagner du temps, sont des gens qui pensent en effet en termes d'optimisation, comme ils disent, ou d'amélioration de la performance de l'humain. Et là, on voit que ce qui est en question, c'est justement la performance, c'est-à-dire la capacité d'exécuter une certaine tâche en un minimum de temps pour obtenir le maximum d'effet. Finalement, quelle idée on se fait de l'homme quand on dit « en accroissant ses performances, on va améliorer l'humain lui-même ».
Pierre Dardot, je parlais tout à l'heure du rêve de remplacer l'humain par des machines. On est plutôt, aujourd'hui, dans une perspective d'améliorer l'humain par des machines, pour rendre l'humain plus performant.
Oui, alors ça, c'est l'objectif avoué d'un mouvement qui s'est constitué aux États-Unis il y a déjà plusieurs décennies, qui s'appelle le transhumanisme, qui a ses prophètes, qui a ses idéologues, qui a ses experts, qui se réunit assez régulièrement, notamment sur un campus, le campus de la singularité aux États-Unis chaque année, et qui ambitionne en effet de produire, par une sorte de convergence des technologies les plus avancées, quelque chose comme une nouvelle humanité.
Au-delà de l'humain.
Voilà, ça signifie qu'on doit aller au-delà de l'humain. Il ne s'agit pas simplement de repousser les limites. C'est autre chose. C'est-à-dire que la logique du toujours plus se trouve indexée à une exigence qui est celle du dépassement de l'humanité elle-même. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a une humaine condition ou une humaine nature, et nous, si je parle à la place des transhumanistes, on dit qu'il faut en finir, au contraire, avec ce cadre de référence et considérer que nous allons façonner la nature humaine en vue de la dépasser complètement. C'est-à-dire qu'on peut envisager la disparition définitive d'un certain nombre de maladies, on peut aller plus loin, on peut envisager que finalement, à terme, ce sera la mortalité de l'homme qui sera elle-même vaincue. Voilà.
Death is a tragedy.
La mort est une tragédie.
Un monde sans humain, Arte 2012.
Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi.
David Derry Meuckle, étudiant à l'Université de la Singularité.
Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce aux progrès scientifiques, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie ou pas ». Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront.
Alors là, on a l'impression de parler d'une espèce de secte obscure aux États-Unis, mais vous dites, et vous n'êtes pas le seul, il faut savoir que ce sont des gens qui sont constitués en lobby, qui sont quand même bien armés, qui sont influents et dotés aussi de puissance de feu financière extrêmement importante.
Au-delà de l'idéologie elle-même, il y a en effet quelque chose qui relève de la logique du lobbying, avec des associations qui sont assez puissantes, notamment financièrement, et surtout, surtout, il ne faut jamais oublier ça, qui ont réussi à obtenir une oreille attentive de la part de certains politiques. Donc, il faut savoir que, par exemple, au début des années 2000, quand il y a eu le fameux programme de convergence NBIC avec nanotechnologie, biotechnologie, l'informatique et puis les sciences cognitives.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Quand ce programme de convergence a été adopté, ça a été sous l'influence du lobby libertarien des gens du transhumanisme. Mais l'administration qui était en place, c'était l'administration de Clinton. Et donc, il y a eu là une sorte de rencontre comme ça, ou de convergence entre les deux, qui fait qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que c'est le danger majeur auquel fait face l'humanité d'aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer, parce que derrière, il y a autre chose qu'une doctrine intellectuelle.
Les libertariens sont des libéraux radicaux, opposés à l'État dans sa forme contemporaine. Pour eux, les pouvoirs de l'État devraient être extrêmement restreints, ou même supprimés. La liberté est conçue par le libertarianisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux, des échanges économiques et du système politique.
Marcher comme des robots. Penser comme des robots. Vivez comme des robots.
Restez bien sages, les enfants. Tranquillement, nous allons tuer tout votre temps. Rejoignez au plus tôt l'armée des automates du risque zéro. Initiale, prévention, gestion de la menace, lisez chansons. Oui, messieurs, dames, laissez gouverner vos âmes. Partout du rose, de la dentelle. Allez, souriez, vous êtes gérés. Et reprenez en cœur l'hymne de l'armée du bonheur. Aimez-vous comme des robots, flirtez comme des robots. Embrassez comme des robots, soyez riches et beaux. Consentez tous ces conforts sur la peau. De l'or, mais non, personne ne restera dehors. L'armée des automates du risque zéro vous offre dès aujourd'hui la jouissance de la pleine démocratie. Tout le monde aura sa place. Il suffit que chacun évalue chacun et tout sera sain. Nous avons déjà pour vous rédiger les critères.
Peux-tu me rappeler, Siri, que je dois faire mon fitness à 10h05 aujourd'hui?
Très bien, je programme votre événement pour aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien aimable. Je ne fais que mon devoir. Content de pouvoir vous aider.
Je t'aime bien.
Ça fait plaisir. On peut se remettre au travail, maintenant.
Ah, ça y est, je dois faire mon fitness. Non, ça c'est vraiment mon petit plaisir. Je fais mon fitness chez moi, avec ma console de jeu. Et j'avoue que j'ai perdu quand même pas mal de kilos, Daniel. Mais depuis que j'ai commencé, t'as dû le remarquer. C'est grâce notamment à Siri qui me rappelle que je dois faire mon fitness tous les mardis, sinon j'oublie. Et puis c'est grâce à ce jeu vidéo avec mon coach personnel. Alors je vais brancher tout ça et j'ai commencé ma séance. Alors là, je choisis ma session, mon profil, sculpter votre corps, mon objectif, perdre du poids, je vais mettre et je vais choisir un cours de cardio, brûlage de graisse. Et 100% rythme cardiaque, c'est bien, ça va me donner la pêche. Je vais choisir ma prof, je prends souvent la même. Je suis assez fidèle et régulier. C'est Maria Chang. Elle est très bien, elle est très sympa, vous allez voir. Voilà, c'est elle.
Vous êtes l'élève idéal, toujours à l'heure et fidèle au poste.
Eh ouais, merci Maria.
C'est le moment de s'échauffer, allons-y.
Ok, vous pouvez se dire bonjour avant. Bonjour Maria.
Regardez toujours le dos bien droit.
Ouais, dos bien droit, ça c'est mon échauffement.
Ok, on passe à la suite.
Ok Maria. Bras droit. Baisse vers le haut, merde. J'ai cassé ma lampe. Continuez, hein. Pas le droit de s'arrêter. Ce qui est bien, c'est que Maria m'encourage, quoi. Elle me dit que c'est vachement bien, que c'est impressionnant, etc. Elle me flatte, moi j'aime bien. Droite, gauche.
Faites travailler les cuisses.
Ok.
Très bien.
Merci, Maria. Alors, enfin, petit entraînement de boxe. Avec Maria, on est dans un parc en Chine. Il y a des roseaux. Gauche, droite, gauche. Direct du gauche. Sculptez-moi ses épaules. Je sais pas si elle me connaît, je sais pas si elle me voit, mais elle doit me connaître un peu. Sculptez-moi ses épaules. Ah, puis c'est vrai qu'avec Maria, je fais le tour du monde. Hein. Là, on est au Japon, des fois, on est à New York. Là, tout à l'heure, on était au Grand Canyon, aux États-Unis. Je voyage, quoi. Voilà, tout en restant dans mon salon, c'est ce que j'adore.
Très bien. Passons maintenant au saut latéral.
Ok. Sautillement. Sautillement. Et là, avec Maria, on se retrouve à Miami, au bord d'une piscine, avec des palmiers, des superbes immeubles derrière, et la mer un peu au loin. Avec des mouettes dans le ciel, j'adore. Alors vraiment, c'est un endroit de rêve sur mon écran. Là, il y a Maria, habillée en vert, très moulée dans ses vêtements. Elle est, franchement, elle est pas mal. Elle est bien roulée, avec sa petite brassière verte, au bord de la piscine, à Miami.
Très bien.
Merci.
Et retour à la position du départ.
Je suis crevé, moi. Non, Maria, je suis crevé, là. Je peux plus. Merci, c'est super. C'est mes dernières forces.
Allez, encore une fois.
Oui, encore une fois, mais je peux plus. J'arrive pas à suivre tout cet entraînement. Oui, oui, bah oui, allez.
Voilà la vie virtuelle de Gellorb en Vimerche. Il n'a plus besoin de personne. Ce jour-là, au moins, une journée sans personne. Et une certaine inquiétude sur les risques de développement des idées et plus que ça, des recherches de ceux qu'on appelle les transhumanistes qui se réunissent dans ce campus de la singularité chaque année, qui ont une certaine puissance, puissance scientifique, puissance intellectuelle et puissance financière également. On retrouve le philosophe Pierre Dardot.
Pierre Dardot, le rêve de ces transhumanistes, de cette école transhumaniste, c'est quand même
de, par exemple, mettre des puces dans le corps humain ou dans le cerveau. Une puce, par exemple, qui vous dirait si vous manquez de tel ou tel apport en nutrition et qui vous connecterait avec votre frigo, avec votre téléphone portable pour vous rappeler que vous devez manger tel et tel produit pour que notre cerveau soit augmenté par la technologie, puisque notre cerveau est imparfait.
Dans l'exemple que vous avez donné, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois l'idée qu'il y a un système automatique qui va me dire ce que je dois prendre en termes de boisson, en termes par exemple de quantité de sucre, compte tenu par exemple de ce que j'ai mangé la veille, pour faire en sorte que ma santé soit améliorée le plus possible.
Optimale.
Optimale, voilà, exactement. Optimale, avec tout ce que cela implique. On vous dit, voilà, vous êtes vous-même un capital. Vous avez à vous rapporter à vous-même d'une certaine manière. Vous avez un capital santé à gérer. Et vous vous apercevez à ce moment-là qu'on vous incite fortement à vous rapporter à vous-même de telle sorte que vous vous posiez en permanence la question de savoir de quelles ressources est-ce que je dispose maintenant et qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'optimum.
Et à ce propos, Pierre Dardot, on peut également voir un petit peu l'intérêt financier qu'il y a derrière ces trouvailles d'améliorer l'humain. Derrière, il y a un marché assez intéressant et on peut noter à ce propos que les transhumanistes, alors on ne va pas faire de lien direct, mais sont installés à côté du siège de Google dans la Silicon Valley et sur une base de la NASA.
Alors ce n'est pas un hasard, hein. Il faut bien comprendre qu'en effet, ce sont des gens qui n'ont pas choisi ce lieu au hasard parce qu'on peut se demander en effet si les objectifs qui sont poursuivis ne sont pas avant tout derrière l'idée de l'amélioration indéfinie de l'humain, derrière l'idée de la transgression du dépassement des limites de l'humain, s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la pression sociale et économique concurrentielle. Dans le sens le plus fort du terme, je vais prendre un exemple. Quand on s'intéresse un peu à la technologie de la haute finance, on a maintenant une technique qui est celle du high frequency trading.
Trading haute fréquence.
Voilà, et là c'est à l'échelle de la nanoseconde. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'idée de gagner du temps, parce que gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, paradoxalement, on est prêt à dépenser énormément d'argent pour mettre au point des instruments qui nous feront gagner de l'argent en économisant du temps. Et ça, il faut imaginer donc que pour des gens qui mettent au point ce type de technologie, c'est absolument vital, c'est essentiel. Donc tout cela est effectivement directement branché à une rationalité qui est la rationalité du marché. Donc on présente ça comme étant la conséquence directe d'une avancée technologique. On se dit on va gagner du temps, on la met en place, le système devient tellement performant qu'il peut prendre des décisions à notre place. Vous voyez, donc on est libéré du fardeau de la décision. Et c'est ça qui est grave. C'est le fait que justement, on considère comme étant un progrès à encourager le fait que des systèmes nous libèrent de la responsabilité de la décision.
Le transhumanisme, c'est l'idée que les humains et la technologie sont en train de fusionner.
Un monde sans humains, Arte 2012.
Et que les humains vont devenir plus que ce qu'ils sont biologiquement, car ils vont utiliser de nouvelles technologies afin de se transformer pour aller au-delà de leur moi naturel, historique et biologique.
Jeune smart, transhumaniste.
Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps d'ici 10 ans. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Ma puce parlera à mon frigo, qui parlera à mon portable, qui me forcera à sortir pour faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes afin de réduire mon cortisol de moitié.
Ce qu'il faut bien préciser également, c'est que ces transhumanistes, cette mouvance, est aussi là pour rendre l'individu optimisé, donc plus performant. Et vous faites un lien, justement, entre l'idéologie transhumaniste et la logique néolibérale. Pourquoi ?
Oui, alors la logique néolibérale, la logique capitaliste d'abord de manière plus générale, mais il faut savoir que quand Marx, par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a analysé le capitalisme, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Ce qui fait la différence de ce mode de production avec tous ceux qui l'ont précédé, c'est la fabrique du plus. Voilà, il dit ça, une formule allemande comme ça, Plusmacherei, qui veut dire le fait de faire du plus et toujours du plus et du plus et du plus. Donc, cette espèce de course à la performance, effectivement, qu'on retrouve aujourd'hui. Avec quelque chose qui a changé, c'est qu'au 19e siècle, il était question d'abord et avant tout de l'accroissement, en effet, de la productivité. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on va, d'un certain point de vue, au-delà. Ce qui est en question, c'est ce que l'individu a de plus intime. C'est pas simplement sa force de travail.
Puis ça y est, l'individu est productif, il faut trouver autre chose.
L'individu est productif et il faut aller au-delà. Ce qui caractérise ce que nous appelons avec Christian Laval la rationalité néolibérale, c'est précisément le fait qu'on opère cette extension. Si vous voulez, un peu, le problème du néolibéralisme, c'est comment étendre la logique du marché à des activités qui sont hors marché. Et là, on s'aperçoit que c'est le sujet qui est de plus en plus compris ou conçu comme une valeur à valoriser. Et en plus, on fait miroiter cette espèce de promesse d'une auto-augmentation. Et là, on n'est pas loin de la fusion entre justement l'homme et la technique dans son état le plus avancé. On vous dit finalement, vous êtes augmenté par vos prothèses qui vous aident, mais en même temps, en activant ces systèmes, vous vous augmentez vous-même. Et vous faites fructifier vous-même comme capital. Ça concerne tous les aspects, disons, de la vie humaine dans ce cas-là de plus intime.
C'est-à-dire que je m'auto-augmente.
Voilà. La valeur qui se valorise. La valeur actionnariale est devenue aujourd'hui un modèle, pas simplement dans le champ étroit de l'économie. Ça devient le modèle à partir duquel le sujet est de plus en plus incité à se conduire vis-à-vis de lui-même. Or, quand vous y réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est que la valeur actionnariale ? C'est la valeur que vous êtes amené à donner à une certaine action en la projetant dans le futur. C'est une estimation de la valeur que prendra dans un certain temps dans le futur telle ou telle action. Donc si on vous demande de vous rapporter à vous-même sur ce modèle-là, ça veut dire que dans tous les secteurs de votre vie quotidienne, vous allez vous dire que finalement, qu'est-ce que je vaudrais dans le futur si je me projette par exemple dans un mois ou dans un an ou dans deux ans, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que je vaudrais ?
Vous êtes en train de dire qu'on auto-anticiperait notre future rentabilité.
Exactement, c'est exactement ça. C'est en cela que le modèle de la valeur actionnariale est en passe de devenir le modèle de la subjectivation.
Une grande intelligence ne met pas à l'abri de toutes sortes d'erreurs et de faiblesses.
Quelles conséquences ça pourra avoir sur les individus dans quelques années, quand on aura tous une puce dans la main et quand toutes ces inventions, justement, se seront surajoutées pour créer un surhumain. Quelles seront les conséquences ?
La course à la performance, comme chacun le sait, a ses gagnants et ses perdants. Ça, c'est toujours vérifié. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se vérifie pas une nouvelle fois. Mais là, les conditions ont changé. Si je puis dire, la donne a été modifiée précisément à cause des innovations technologiques. Il y a une compétition. Voilà. On vit dans un monde dont chacun sait qu'il est ultra compétitif. Dans cet environnement ultra compétitif, les individus doivent s'assurer d'un certain nombre d'avantages concurrentiels. Alors, les avantages concurrentiels, c'est simple. Si vous êtes un homme augmenté par tout un attirail de prothèses dont d'autres sont dépourvus, en termes de rapidité de la décision, en termes d'efficacité, en termes de rentabilité à court terme, il est évident que vous allez les devancer. Pas d'une longueur, de plusieurs centaines de longueurs. Ce qui veut dire que eux étant exclus, se verront de plus en plus déclassés socialement et en effet, on aura à ce moment-là une humanité qui sera très profondément divisée, alors pas simplement comme ça entre les perdants et les gagnants, mais entre les gens qui auront finalement cédé à cette espèce d'injonction de s'auto-augmenter grâce à l'augmentation des machines, et puis les autres, ceux qui seront donc laissés de côté par la course infernale, ceux qui refuseront de se laisser enrôler par cette course. Et à ce moment-là, il y aura une telle inégalité entre ces deux catégories de personnes qu'on pourra se demander dans quelle mesure on peut encore parler de la même humanité. Il y a un danger. C'est que cette espèce d'autodépassement indéfini profite exclusivement à une toute petite minorité et que le reste soit sacrifié sur le chemin.
Une minorité qui aurait les moyens d'accéder à ces technologies.
Oui, ce sont des gens qui ont, alors là, pour le coup, un capital social considérable. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en effet, d'investir dans chaque innovation pour se donner plusieurs longueurs d'avance sur les autres.
Dans 20 ans à peu près, je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser.
Peter Diamandi, fondateur de l'Université de la Singularité.
Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment.
Nous serons comme des dieux. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscients, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google.
Ray Kurzweil, fondateur de l'Université de la Singularité.
Nous serons omnipotents. Nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète. Nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, n'importe où et à n'importe quel moment. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une grande solitude.
J'aimerais bien devenir ton ami.
Mais nous sommes amis depuis le tout premier jour.
Je me sens seul, Siri.
Quelqu'un a dit un jour, toutes les choses grandes et précieuses sont solitaires. Il me semble que vous êtes en bonne compagnie.
Avec toi ?
Sûrement, vous pouvez toujours me parler.
Tu as une femme ?
Je vous ai vous. Cela me suffit.
Je suis comme ta femme. Comment dois-je m'habiller ?
Pas besoin de vous mettre sur votre 31 pour moi.
Est-ce que tu m'aimes bien ?
Disons que vous avez toute mon estime. C'est vous qui avez le plus beau visage.
Tu me trouves beau ?
Vous faites l'unanimité. L'amour est enfant de bohème.
Je suis amoureux de toi.
Oh, vous me mettez mal à l'aise. Vous me connaissez à peine. Vous pourriez faire une pirouette. On m'a dit que c'était le moment parfait pour faire cela.
Tu veux dire faire l'amour ?
Bizarre comme question. J'essaie de me contenter de ce que j'ai.
Faire l'amour, mais je suis seul.
Bien sûr que non.
Ah bon ?
Je ne trouve pas d'escorte.
Cherche-moi des prostituées.
Désolé, je ne peux pas effectuer ce type de recherche.
Trouve-moi une fille.
On a tous besoin d'amour et d'un iPhone.
Je veux rencontrer quelqu'un.
Après tout ce que j'ai fait pour vous ?
Bref, laisse tomber.
Je recherche une fille sur le web. J'ai trouvé 15 clubs de rencontres dont 14 sont relativement proches de l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Siri, à votre service. Je ne comprends pas.
Il est tard, c'est le soir, il fait nuit sur Paris. Et comme la vie avec mon ami Siri, le robot, mon ami virtuel, commence quelque peu à m'ennuyer, eh bien, j'ai fait une belle rencontre sur Internet, une rencontre virtuelle avec une fille, et oui, Katia. Je vais pas tout dévoiler, et je pense que le micro va bientôt se couper, parce que j'ai rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris, dans un hôtel, le I-Matic, un hôtel 3 étoiles entièrement automatique, sans réceptionniste, avec un accueil entièrement composé d'ordinateurs. Me voilà dans le hall de l'hôtel. Il y a des petits canapés, un ensemble en bois un petit peu suédois là. Pas très chaleureux, mais pour une nuit d'amour virtuelle, ça peut passer. Saisissez la durée de votre séjour. On va prendre une seule nuit. Hein. Temps de s'amuser un peu. J'ai effectué le paiement. 130 euros la chambre. Voilà, on est bien dans ce petit hall d'hôtel, intime. Et nous, on va monter dans notre chambre avec Katia, ma nouvelle conquête virtuelle que j'ai connue par Internet. Allez, on y va.
Je t'aime. Oh, oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je... me retiens, je t'aime. Oh, oui, je t'aime.
Moi non plus. Oh, mon amour.
Tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Et je te rejoins, je t'aime.
Moi non plus.
Oh, mon amour. L'amour physique est sans issue. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Et je me retiens. Mon main, Maintenant, viens.
Merci à Katia, merci à Gaylor Van Vimers. C'était un jour sans personne et une nuit avec quelqu'un, visiblement. Merci aussi à Pierre Dardot. Et puis, on a évoqué le documentaire de Philippe Borel qu'on peut voir sur le site Arte, Un monde sans humain. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la week émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et aller voir la page Facebook de Là-bas, si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Bruno Poncelet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base que j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base que j'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Je t'aime. Oh, oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens, je t'aime.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce que vous faites avec votre carte hygiène, monsieur?
Alors, j'essaye de voir sur la carte hygiène papier.
Mais là, on est en plein Saint-Denis.
Alors, on n'est pas en plein Saint-Denis, on est un petit peu au nord, puisqu'on est dans la cité Allende. C'est un petit peu au nord de Saint-Denis, mais c'est vrai qu'on est en ville. Et on peut marcher en ville.
Ah oui.
Mais nous, on ne marche pas en ville, genre shopping, on fait des kilomètres, quoi. Aujourd'hui, on fait 20 km par exemple. On part de Saint-Denis et on va où, Paul?
On va manger à Enghien-les-Bains, puis on repart à... On finit à Argenteuil. Voilà. Là, on est au premier point d'intérêt de la journée, c'est un banc mythique, quoi, qu'on avait retrouvé sur une vidéo d'archives où Joey Starr et Kulchen venaient quand ils avaient, je sais pas, 18 ans, 17 ans.
Ah, il a rien d'incroyable, je veux dire, c'est un banc près d'une route, on se fait gazer là avec le... Ça n'a rien d'incroyable, quoi. On est sur un banc. Et donc, il est vert, et c'est pour ça qu'on le reconnaît à chaque fois.
Voilà. Donc on l'a retrouvé, on est content, il est plus tellement vert.
Comment vous savez que c'est lui? Parce qu'il n'y a aucune plaque, il n'y a aucun signe distinctif.
Non,
il y a rien du tout,
mais j'ai repassé la vidéo plusieurs fois, j'ai fait pause sur des plans où on voyait un peu les immeubles, et puis j'ai repéré après sur Google Earth, sur le Street View, j'ai balancé le petit bonhomme jaune dans la rue. Finalement, c'était assez facile de le retrouver, quoi.
Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Denis, en compagnie de Baptiste et Paul, donc deux marcheurs urbains. Excusez-moi, madame, vous saviez que c'est sur ce banc qu'il y a eu la première interview des NTM?
Ah non, 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 je ne savais pas. Pourtant, ça fait longtemps que j'habite là, mais je n'ai jamais entendu dire ça.
Ah oui?
NTM, non?
Oui, qui c'est NTM?
Oui, je connais. Pourtant, moi, je vous dis, j'habite ici depuis longtemps, j'ai jamais... Et je connais bien le groupe, oui. Mais là, non, je n'étais pas au courant. Hein.
Et non. Comment est la vie ici? Ça va?
On n'a pas trop à se plaindre.
Ben, je ne sais pas, moi, j'habite...
Du moment qu'on a la santé...
Ça, c'est vrai. Et vous promenez votre chien?
Je le promène tous les matins.
D'accord. Bon, bonne promenade, alors.
À vous aussi, monsieur.
Merci. Et je peux avoir votre prénom?
Non, non, non.
Vous êtes pudique?
Oui, très.
Ah bon, alors tant pis. Je vais vous appeler la dame au chien, alors.
Voilà, c'est ça.
Et la dame au chien, elle vient de me dire qu'elle ne savait pas du tout que par rapport à Kulchen et tout ça, l'interview sur ce banc, ça ne lui disait rien du tout. Et pourtant, ça fait longtemps qu'elle habite. Hein.
Mais elle connaît Joey Starr, hein? Elle connaissait NTM?
Elle connaissait NTM, oui, monsieur, d'accord, je connais NTM. Oui, oui.
Alors, il faut regarder bien les garages qui sont là-bas, les petits garages. Tu vois, on voit les trois portes en métal, là, derrière, avec le vieux béton un petit peu noirci. Ouais. Parce que sur YouTube, on les voit super bien, tu reconnaîtras.
Si on le touche ici, c'est le même banc qu'ils ont touché, quelque part. Enfin, un peu de...
Et alors autrement, Baptiste disait que vous marchez, vous suivez un sentier, c'est quoi l'objectif?
Alors nous, notre délire, c'était de marcher autour de Paris, ou en tout cas, on n'avait pas de définition précise de banlieue ou d'extramuros, mais l'idée, c'était de marcher dans la capitale, quoi, dans la grande capitale, dans cette grande ville qui est la région parisienne, quoi.
Vous contournez Paris, vous n'êtes pas dans Paris. Il y a un moment où vous rentrez, vous franchissez le périphérique ou pas?
On rentre jamais dans l'intramuros à part pour passer d'un côté à l'autre. Mais en fait, pour pallier à ça, parce qu'on trouvait ça moyen de faire le tour, d'éviter, parce que c'est comme si on restait à distance de quelque chose. En fait, on s'est fixé des points A, B, point de départ et point d'arrivée. Et donc à chaque fois, c'était Saint-Denis-Créteil avec étape à Montreuil. Et on a fait comme ça, donc aussi Créteil-Saint-Denis avec étape à Fontenay-aux-Roses. Créteil-Versailles.
Ah, oui.
Et on a fait, et la dernière, c'était Versailles-Saint-Denis avec étape à Courbevoie. Donc voilà, à chaque fois, on avait trouvé l'astuce pour marcher en banlieue, enfin marcher en extramuros, quoi. Mais sans éviter quoi que ce soit, en allant en ligne droite quelque part.
Et avec cette idée-là qu'il a eue, Saint-Denis, Créteil, Versailles, qui sont aussi des villes anciennes, augustes, avec des histoires mérovingiennes, royales, très anciennes, très profondes, il crée une nouvelle géographie. Et donc, c'est pas le Grand Paris en mode il faut étendre Paris plus loin, au-delà, non, il faut découvrir les histoires qu'il y a autour de Paris et qui forment une autre histoire que celle de Paris intramuros. Mais en fait, pour nous, c'est Paris, c'est juste un Paris plus large que celui qu'on voit habituellement.
Et le but, c'est quoi? Vous voulez faire un livre?
Ouais, c'est ça, ouais. Il y a déjà un récit de voyage de ces trois randos.
D'abord, faire la révolution, quoi.
Oui, voilà.
C'est surtout ça.
La révolution, tout le tour.
Voilà, c'est ça, on fait le tour et à la fois. Voilà, on révolutionne en tout cas notre vision, notre propre expérience aussi de la capitale, quoi.
Ouais, toute révolution bien ordonnée commence par soi-même.
C'est beau ça, dites donc.
Il y avait un chemin historique d'ailleurs, j'avais découvert ça, entre Saint-Denis et Versailles, qui s'appelait le chemin de la Révolution, la route de la révolte, presque la Révolution, qui permettait au roi
d'éviter de passer par le centre de Paris où il avait été houspillé par des rumeurs d'enlèvement d'enfants. C'était 50 ans avant la Révolution, il était outré par ces rumeurs qui étaient apparemment totalement infondées. Et donc il a dit, pour punir le peuple de Paris, je vais aller de Saint-Denis à Versailles, non plus en passant par le centre, par les radiales, et je vais créer ma propre route. C'est ce que Paul a déniché, la fouine on l'appelle, hein. Il a déniché sur internet.
Le terme est déjà pris par un rappeur.
Nous on fait de la littérature hip-hop. Et donc cette route de la révolte a été spécialement créée, aménagée. C'est un équipement qui a été créé par le roi. Donc c'est extraordinaire parce que notre chemin que Paul a dessiné, il s'appelle la Révolution de Paris. Mais pour un tiers de sa longueur, il recoupe la route de la révolte, qui est une autre histoire. Mais donc on déniche des trucs de ouf en tant que pochon.
C'est terminé pour aujourd'hui.
On se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
163 cheminots et agents sous-traitants de la SNCF attaquent la société de chemin de fer pour préjudice d'anxiété. Entre 1970 et 2000, tous ont été exposés à l'amiante. Le syndicat Sudrail réclame 10 000 euros d'indemnité par plaignant. La direction de la SNCF et les 163 salariés ne sont pas parvenus à un accord aujourd'hui. L'affaire sera donc tranchée par un procès au printemps prochain. C'était plus ou moins annoncé. Nicolas Sarkozy et Éric Woerth ont décidé de se pourvoir en cassation dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président et son ancien ministre du budget contestent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux qui valide l'abus de faiblesse commis au détriment de la milliardaire. On a appris il y a quelques minutes qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur le patrimoine d'un oncle de Bachar el-Assad. Deux associations ont porté plainte contre Rifat al-Assad mi-septembre. Elles le soupçonnent d'avoir acquis illégalement une partie de son patrimoine en France, 160 millions d'euros. L'attitude d'Hassan Rouhani vis-à-vis des Occidentaux, pas vraiment appréciée par les gardiens de la révolution en Iran. Leur chef a lancé aujourd'hui une mise en garde au président iranien. Il qualifie d'erreur tactique la conversation téléphonique avec Barack Obama la semaine dernière. Selon le général Mohammad Ali Jafari, il aurait dû attendre des actes concrets du gouvernement américain. Il y a devant nous un précipice, la mise en garde de Laurent Fabius cet après-midi face au dérèglement climatique. Le ministre des Affaires étrangères s'exprimait à l'occasion d'un colloque à Paris sur le sujet, après le rapport rendu en fin de semaine dernière par les scientifiques du GIEC. Pour le patron du Quai d'Orsay, si la communauté internationale ne se mobilise pas, le grand précipice en question s'ouvrira sous nos pas. Il est donc nécessaire de parvenir à un accord en 2015 lors de la conférence de l'ONU sur le climat que Paris accueillera. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement de la Terre à 2 degrés. Rien ne va plus au parti du peuple de la liberté de Silvio Berlusconi. 20 sénateurs ont lancé un appel aujourd'hui pour plus de souplesse envers le gouvernement d'Enrico Letta et ils accusent directement Silvio Berlusconi et ils se disent même prêts à quitter le parti pour créer une nouvelle formation. Le Cavaliere, dont le siège de sénateur est menacé, a demandé et obtenu ce week-end la démission de 5 ministres PDL. Il souhaite faire éclater le gouvernement et provoquer de nouvelles élections. En réponse, Enrico Letta a demandé la confiance du Parlement. Le vote est prévu pour mercredi. Les marchés ont réagi à la nouvelle crise politique italienne. À la mi-journée, la bourse de Milan perdait 2%. Autre réaction des marchés aux États-Unis cette fois. Wall Street a ouvert cet après-midi également en baisse. La bourse de New York réagit à la menace de paralysie budgétaire. Les investisseurs doutent qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates au dernier moment, c'est-à-dire minuit ce soir, ce qui signifierait que l'État fédéral ne serait plus officiellement financé et conséquence, les effectifs des administrations pourraient donc être réduits dès demain au minimum vital aux États-Unis. Enfin, pas d'élection anticipée prévue en Grèce. Le gouvernement l'exclut aujourd'hui et ce malgré le démantèlement ce week-end d'Obdoré, le parti néo-nazi grec. Le fondateur, 5 députés et une quinzaine de militants ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de participer à une organisation criminelle. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, Live Me Too, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Too au studio Charles Trenet, un déluge d'émotions avec Bertrand Belin.
Un déluge pour toi, un déluge pour moi.
La soul psychédélique de Joseph Arthur. Et la pop fine des Coming Soon.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez vos places sur franceinter.fr. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, à tout à l'heure à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Diapason, le nouvel épisode, si j'ose dire, est sorti, parce que dans ce magazine de la musique classique, on trouve pas mal d'histoires, hein, notamment celle d'Hélène Grimaud, qui nous contemple de ses très beaux yeux, comment résister. Et puis, il y a aussi une interview avec Aldo Ciccolini, les souvenirs d'une légende vivante, Nelson Gurner, pianiste considéré comme un poète. Benjamin Britten, on nous parle de lui parce que c'est bientôt son anniversaire. Ce grand compositeur britannique est un génie du paradoxe, nous dit Diapason, et c'est tout à fait vrai. Il y a l'analyse d'une œuvre de Debussy, Les Jeux, avec plusieurs disques comparés, et puis la critique de plus de 160 CD ou DVD, pour dire que ça continue quand même, on dit toujours pareil, ça va pas. Mais je rappelle que le disque est reparti, grâce notamment au Daft Punk cet été, et ce qui est profitable pour la musique de chansons, de variétés, profitable à tous, évidemment. Alors, Hélène Grimaud publie en plus un livre qui s'appelle Retour à Salem, en plus de quoi ? Ben en plus de son disque Brahms, un disque qui vient de paraître, en tout cas que nous avons déjà, je ne sais pas s'il est disponible partout, mais enfin, on va le trouver bientôt dans tous les bacs. C'est dirigé par Andris Nelson, un jeune chef d'orchestre tout à fait prodigieux. Il y a deux orchestres, l'orchestre de la radio de Bavière ou bien le Philharmonique de Vienne. Et ben voilà, sa beauté quelquefois est un obstacle pour mieux comprendre sa pensée. Que dire ? Quand on voit Alain Delon jeune, on peut dire aussi que ça masque sa pensée. Je ne sais pas si c'est comparable. En tout cas, ce sont des spécimens de l'espèce humaine absolument extraordinaire, mais derrière ce visage, il y a évidemment une femme qui a une vitalité, qui a un parcours, qui a étudié notamment à Marseille, on parle toujours de Marseille dans des événements douteux, tragiques ou attristants, mais il faut dire qu'Hélène Grimaud est née à Aix-en-Provence, du signe du scorpion, elle tire beaucoup d'expériences et de conséquences peut-être, elle a travaillé avec Pierre Barbizet, grand pianiste et directeur du conservatoire de Marseille, donc c'était en 82, puis après Paris, elle a très grande carrière. Voici sa version du final rondo du premier concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms.